Alléluia de Noël. Alléluia. Alléluia. Sanctificatus in lux et et adorate Dominum, quia ori descendit lux mania super terra alleluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi « Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur ». Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. » La mère, le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Dans cet évangile et ces lectures que nous avons entendues, le contexte qui nous est donné est celui de la foi et celui de la fidélité à la loi de Dieu. Lorsqu'on développe un idéal chrétien de la famille, c'est bien dans ce contexte-là qu'on doit le développer. Sinon, on passe à côté de l'essentiel et on risquerait simplement de chercher à justifier ce que l'on a envie de vivre en le teintant un peu d'évangile pour excuser les manques de croissance spirituelle. Donc, bien comprendre que lorsque on parle de la Sainte Famille, et que l'on essaie de trouver en elle la source nourricière de la grâce pour toute vie familiale, on se situe d'abord dans ce contexte de foi en Dieu et de fidélité à l'Alliance, ainsi que le témoignent Siméon et Anne qui personnifient la fidélité d'Israël, qui personnifie le désir de salut d'Israël. Sur le plan du texte que nous avons entendu, qu'est-ce que nous découvrons? D'abord, il faut savoir que le temple de Jérusalem, pendant des décennies, abritait que du vide. L'arche d'alliance avait été perdue au moment où les Juifs avaient été conduits en déportation. Jérémie, avant la déportation, a demandé, le prophète Jérémie, qu'on cache l'arche d'alliance, vous trouvez ça dans le livre de Jérémie, l'arche d'alliance dans la montagne. Et puis ça s'est fait tellement dans la précipitation qu'on n'a plus su où il avait été caché. C'est pour ça qu'il y a eu le film « Les aventuriers de l'arche perdue ». Mais tout ça pour dire le temple est vide. Toute la liturgie du temple se fait pour exprimer l'attente de ce jour où Dieu, et ce sera le temps du salut, où Dieu viendra à nouveau habiter son temple. Or, qu'est-ce qui se passe dans cet évangile? Marie et Joseph et Jésus viennent dans le temple. Jésus vient prendre possession du temple. Marie est la nouvelle arche d'alliance. Elle qui a porté le Verbe de Dieu, la nouvelle loi en son sein, cette loi faite de chair. Et Joseph, le gardien de l'arche d'alliance, le gardien de la loi, comme les prophètes, comme les prêtres du temple. Joseph les accompagne. Alors, le temple de Dieu devient habité à nouveau par la gloire de Dieu qu'est le Christ. Mais au moment même où Jésus prend possession du temple, le temple perd sa signification, car désormais le vrai temple, c'est le Christ. Ce n'est plus une construction de pierre, c'est une construction de chair. Et à partir de ce moment-là, la Sainte Famille devient le nouveau temple. Et c'est pour cela que le pape Paul VI, en particulier, va synthétiser tout cela par une expression en disant « la famille est comme une église domestique ». Parce que le nouveau temple de Dieu, C'est le Christ, c'est Marie, c'est Joseph, c'est la communauté des croyants, c'est l'Église. C'est l'Église, ce nouveau temple, où réside la gloire de Dieu et où tous sont appelés à venir rencontrer le Seigneur, à venir se présenter au Seigneur. Alors, à partir de là, nous comprenons la signification profonde et théologique de la Sainte Famille pour nous. Qu'est-ce que cela veut dire? D'abord que cette Sainte Famille exprime une réalité importante de la foi. La foi n'est pas seulement une réalité individuelle, une réalité particulière, personnelle. J'ai la foi, j'essaie de cheminer vers le Seigneur, et ma foi, les autres, ils ont la foi, ils n'ont pas la foi, c'est pas important. Je vais prier pour eux quand même, pour qu'ils se convertissent. Non, la foi a une dimension sociale. La famille, naturellement, est la cellule de base de la société. Ce qui veut dire que la foi chrétienne a obligatoirement une dimension familiale pour avoir une dimension sociale. S'il n'y a pas cette réalité-là, l'évangélisation ne sert à rien. Le témoignage de la foi ne sert à rien. L'engagement chrétien dans la société ne sert à rien. Dès lors, nous ne pouvons pas avoir la foi sans qu'elle ait un impact sur la vie familiale. Sous quelle forme sera vécu cet impact? À chacun de faire ce qu'il peut. La deuxième chose que nous devons retenir, après avoir souligné la dimension familiale de la foi, c'est ce que représente pour la vie du chrétien, pour la vie familiale, la Sainte Famille. De la même façon que nous ne pouvons pas imiter la vie du Christ, parce que nous ne sommes pas le Christ, nous sommes incapables de faire des miracles, sauf si nous sommes de grands saints et que Dieu nous en donne la grâce exceptionnelle. Nous n'irons jamais sur la croix offrir notre vie pour le monde. Nous pourrons être crucifiés parce que nous pouvons être martyrisés, mais notre mort ne sauvera pas le monde. Nous ne pouvons pas reproduire, comme on reproduit un tableau, la vie du Christ dans notre vie. Mais le Verbe, en venant se faire chair, en s'incarnant, vient renouveler et transformer en profondeur l'humanité, donnant ainsi à tout être humain la possibilité de communier au salut. Il en est de même pour la Sainte Famille. Aucune famille ne peut reproduire la Sainte Famille. Aucune mère ne peut s'identifier totalement, complètement, comme on reproduit un tableau, à la Vierge Marie. Aucun père ne peut s'identifier totalement, complètement, à Joseph. Aucun enfant ne peut s'identifier au Christ. Mais la Sainte Famille, par son existence même, vient renouveler en profondeur toute famille, permettant à toute famille d'accéder dans cette dimension sociale de la foi, d'accéder au salut. Dès lors, quelle que soit la réalité familiale qui peut être vécue, une famille stable, unie, profonde, ou au contraire une famille éprouvée, une famille brisée, quelle que soit la réalité de cette famille, dans la mesure où il y a un désir de foi, dans la mesure où il y a un désir de fidélité à l'Alliance, eh bien, cette famille-là a accès à cette grâce, à ce salut que vient manifester la Sainte Famille. Voilà pourquoi aujourd'hui nous pouvons prier pour toutes les familles, et que toutes les familles, même les familles recomposées, décomposées, tout ce que vous voulez, sont touchés quand même par cette grâce, c'est-à-dire peuvent, si elles le souhaitent, découvrir cette dimension sociale de la foi. C'est pour cela que la première prière que nous avons entendue nous faisait demander de pratiquer les vertus familiales de cette famille, de cette sainte famille. Qu'est-ce que c'est que ces vertus familiales? Bien, c'est tout simplement la manière familiale de vivre les vertus, que ce soit les vertus humaines ou les vertus théologales. Je vous rappelle qu'il y a 4 vertus cardinales. La justice, la prudence, la tempérance, la force. Vivre familialement la justice, ça veut dire quoi? Ça veut dire rendre à chacun ce qu'on lui doit. Ce qu'on doit à un enfant, c'est l'épanouissement de sa vie. C'est de grandir en sagesse et en taille, comme le dit l'Évangile. Mais faire justice, c'est permettre à ce que l'autre devienne un juste. Entre dans la justification. La famille est le lieu où se fait l'expérience de la vie en société, mais où se fait aussi la première expérience de la justification, c'est-à-dire du salut, de la rédemption. La tempérance. La tempérance, c'est ce qui consiste à maîtriser finalement ses désirs, ses passions. Il y a dans la famille une tempérance à vivre, dans l'exercice du pouvoir, dans le désir de vouloir construire quelque chose. De la tempérance naît aussi cette chasteté qui doit exister dans une famille, qui n'est pas seulement la chasteté conjugale, mais qui est la chasteté au sens strict, c'est-à-dire la manière de gérer sa relation à l'autre, de ne pas considérer l'autre comme un bien, comme une propriété. Les parents qui sont trop possessifs de leur enfant, ou les enfants qui instrumentalisent leurs parents. La prudence qui va faire discerner par rapport au projet de vie familiale, qu'est-ce qui va être vraiment le bien véritable, le bien commun de la famille? Alors cela peut concerner tous les domaines, le domaine du travail. Est-ce qu'une promotion professionnelle est prudente si elle met en danger l'unité familiale? Oui, mais je vais gagner plein d'argent, comme ça, quand on sera à la retraite, on pourra s'occuper de nos enfants. Le seul problème, c'est que entre le moment où on est dans cette promotion qui vous fait faire un peu n'importe quoi et écraser la tête des autres et la retraite, ben la famille vole en éclats. La prudence qui nous fait faire des choix, la force qui permet de traverser l'épreuve en se disant, ben non, ce n'est pas parce que je suis éprouvé dans mon désir d'enfant, éprouvé dans mon projet éducatif, de voir ben, qu'il n'y a pas de suite. Tous mes enfants ont reçu mon père, ont reçu la même éducation. Et pourtant, il y en a un qui a rejeté la foi. Les autres ne pratiquent pas. On peut prendre les quatre vertus cardinales, il y a une manière familiale de les vivre. Et puis les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, qui nous font découvrir que le Seigneur a voulu que la famille soit le lieu de l'apprentissage de la foi, le lieu de l'apprentissage de l'espérance, le lieu de l'apprentissage de la charité. Enfin, je terminerai peut-être par quelque chose qui concerne notre temps, plus particulièrement. L'Évangile souligne qu'il y a une rencontre intergénérationnelle. Marie, Joseph et l'enfant rencontrent Anne et Samuel. Et Marie dépose l'enfant dans les bras de Siméon. Par rapport aux personnes marquées par le grand âge, avons-nous conscience que pour gérer le problème du grand âge, il ne s'agit pas seulement de construire de belles maisons de retraite ou d'éditer des lois qui permettront à ceux qui pensent que la vie est trop lourde à porter, qu'ils peuvent disparaître comme ça, que la vraie finalité, c'est de permettre aux personnes âgées de recevoir Jésus dans leurs bras, de pouvoir chanter le cantique de Siméon. Maintenant, Seigneur, tu peux laisser partir ton serviteur, car mes yeux ont vu le salut. Là, dans ce problème intergénérationnel qui marque notre société, la famille chrétienne a un rôle extrêmement important à jouer. Eh bien, demandons à la Sainte Famille qu'elle nous aide à vivre chacun selon sa vocation, son chemin, ses vertus familiales, qu'elle nous aide à être dans le monde d'aujourd'hui les témoins de cette foi qui n'est pas seulement quelque chose de personnel, c'est ma croyance, mais qui est vraiment un don qui est fait pour que la société tout entière, à la suite du Christ, grandisse en sagesse et en taille.
Le credo se trouve à la page 374.